Chapitre 4. Mauvaise route. Moscou. La comtesse Strogonoff. La princesse Tufakine. La maréchale Soltikov. Le prince Alexandre Kourakine. Visite à une Anglaise. Le prince Betborodko. Le comte Boutourline. Je retourne à Pétersbourg. Il est, je crois, difficile d'éprouver une aussi horrible fatigue que celle qui m'attendait sur la route de Pétersbourg à Moscou. Les chemins que je comptais trouver gelés, comme on me l'avait fait espérer, ne l'étaient point encore. Ces chemins sont atroces et les rondins, qui les rendent à peine praticables dans les grands froids, n'étant plus fixés par la glace, ballottent sans cesse sous les roues et produisent le même effet que les grosses vagues de la mer. Ma voiture, à moitié embouchée, nous faisait ressentir de si terribles chaos que je croyais rendre l'âme à chaque instant. Pour donner quelque relâche à ce supplice, j'arrêtai à moitié chemin et je descendis à l'auberge de Novogorod, la seule que l'on trouve sur la route, dans laquelle on m'avait dit que je serais bien nourri et bien logé. Ayant le plus grand besoin de me reposer, mourant de faim et de fatigue, je demandai une chambre. À peine y étais-je installé que je sentis je ne sais quelle odeur méphitique qui me tournait le cœur. Le maître de l'auberge, que je priais de me faire changer d'appartement, n'en ayant point d'autre à me donner, je me résigne. Mais bientôt, croyant remarquer que cette odeur intolérable m'arrive par une porte vitrée qui se trouvait dans la chambre, j'appelle un garçon et je l'interroge sur cette porte. « Ah !» me répondit-il tranquillement, « c'est que derrière cette porte, il y a un homme mort depuis hier. C'est sans doute cela que madame sent. » Je ne demande pas d'autres détails. Je me lève, je fais mettre des chevaux à ma voiture et je pars, n'emportant qu'un morceau de pain pour continuer ma route jusqu'à Moscou. Je n'avais fait que la moitié du chemin, dont la seconde partie était encore plus fatigante que la première. Ce n'est pas qu'il s'y trouve de hautes montagnes, mais la route se compose de montées et de descentes continuelles, ce que j'appelle des tourments. Pour comble d'ennui, je ne pouvais me distraire par la vue du pays que je traversais, car de tous les côtés, un épais brouillard voilait la nature, ce qui m'attriste toujours. Si l'on joint à ces tribulations la diète à laquelle je me vis condamné quand j'eus dévoré mon morceau de pain, on concevra que je dus trouver le chemin bien long. Enfin, j'arrivai dans cette immense capitale de la Russie. Je crus entrer dans Ispahan, dont j'avais vu plusieurs dessins. Ces dessins avaient été faits en Turquie, principalement à Constantinople. Tant l'aspect de Moscou diffère de tout ce qui existe en Europe. Aussi n'essaierai-je point de décrire l'effet que produisent ces milliers de dômes dorés, surmontés d'énormes croix d'or, ces larges rues, ces superbes palais, situés pour la plupart à de telles distances les uns des autres que des villages les séparent. Car pour prendre une idée de Moscou, il faut le voir. Je me fis descendre au palais que M. Dimidoff avait eu la bonté de me prêter. Ce palais était immense, précédé d'une grande cour qu'entourait des grilles très élevées. Personne ne l'habitant, je me promettais une tranquillité parfaite. On sent qu'après toutes mes fatigues et ma diète forcée, mon premier besoin, dès que j'eus satisfait mon appétit, fut celui de dormir. Mais hélas, voilà que vers 5 heures du matin, je suis réveillé en sursaut par un bruit infernal. Une énorme troupe de ces musiciens russes qui ne donnent chacun qu'une note de cor venait de s'établir dans le salon voisin de ma chambre pour répéter. Ce salon était fort grand et peut-être était-il le seul qui convint à ce genre de répétition. J'eus grand soin de demander au concierge si pareille musique avait lieu tous les jours. Et sur sa réponse que, le palais n'étant pas habité, on avait consacré la plus grande pièce à cet usage, je résolus de ne rien changer aux habitudes d'une maison qui n'était point la mienne et de chercher un autre logement. Dans mes premières courses, j'allai voir la comtesse Strogonoff, femme de mon vieux et bon ami. Je la trouvai hissée sur une machine très élevée qui faisait continuellement la bascule. Je ne concevais pas comment elle pouvait supporter ce mouvement perpétuel. Mais elle en avait besoin pour sa santé, car elle était dans l'impossibilité de marcher et d'agir, ce qui ne l'empêchait pas d'être aimable. Je lui parlai de l'embarras où j'étais de trouver un logement. Elle me dit aussitôt qu'elle avait une jolie maison qui n'était point habitée et me pria de l'accepter. Mais comme elle ne voulait pas entendre parler du prix de la location, je refusai positivement. Voyant qu'elle me pressait en vain, elle fit venir sa fille, qui était fort jolie, et me demanda le portrait de cette jeune personne pour prix du loyer, ce que j'acceptai avec plaisir. J'allai donc, quelques jours après, m'établir dans cette maison où j'espérais trouver du calme, puisque je devais y loger seule. Dès que je fus installée dans ma nouvelle habitation, je visitai la ville autant que me permettait de le faire la rigueur de la saison. Car durant les 5 mois que j'ai passés à Moscou, la neige n'a point fondu, ce qui m'a privé du plaisir de parcourir les environs que l'on dit admirables. Moscou a pour le moins 10 lieues de tour. La Moskoua traverse la ville et 2 autres petites rivières l'arrosent. C'est un coup d'œil vraiment surprenant que cette multitude de palais, de monuments publics d'une très belle architecture, de couvents, d'églises. Les églises sont en si grand nombre qu'un dicton du peuple est « Moscou avec sa 40 quarantaine d'églises », entremêlées de sites agrestes et de villages. Ce mélange de magnificence et de simplicité champêtre produit je ne sais quel effet fantastique qui doit plaire aux voyageurs, toujours avides d'originalité. La ville renferme, dit-on, 420 000 habitants, et le commerce qu'on y fait doit être bien considérable, puisqu'un seul quartier, dont j'ai oublié le nom, contient 6 000 boutiques. C'est dans le quartier appelé Kremlin que se trouve la forteresse de ce nom, l'ancien palais des tsars. Cette forteresse est aussi vieille que la ville, qu'on prétend avoir été bâtie vers le milieu du XIIe siècle. Elle est placée sur une hauteur, au bas de laquelle coule la Moskoua. Mais son style n'a rien de remarquable que son ancienneté. Tout près de ce monument, dont les murs sont flanqués de tours, on me fit voir une cloche d'une dimension colossale, à moitié recouverte de terre, qu'on me dit n'avoir jamais pu enlever pour la placer dans le palais ou dans l'église. Cette cloche n'a été dégagée de la terre qui la couvrait qu'en cette année 1836. Les cimetières de Moscou sont immenses et, suivant l'usage répandu dans toute la Russie, plusieurs fois dans l'année, mais principalement le jour qui répond chez les Russes à notre jour des morts, le peuple s'y porte en foule. Hommes et femmes se mettent à genoux devant les tombes de leurs familles et là, ils poussent des cris lamentables qu'on peut entendre de très loin. Un usage tout aussi général à Moscou comme à Pétersbourg est celui des bains de vapeur. Il en existe pour les femmes et pour les hommes. Seulement ces derniers, quand ils ont pris leur bain, dont ils sortent rouges comme de l'écarlate, vont tout nus se rouler dans la neige par le froid le plus excessif. On attribue à cette coutume la vigueur et la bonne santé des Russes. Il est bien certain qu'ils ne connaissent ni les maladies de poitrine, ni les rhumatismes. Une promenade fort agréable à Moscou est le marché, que l'on trouve toujours approvisionné des fruits les plus beaux et les plus rares. Il est placé au milieu d'un jardin. Une très grande allée le traverse, ce qui rend cet endroit charmant. Aussi est-il reçu que les plus grandes dames aillent elles-mêmes y faire leurs achats. Elles s'y rendent l'été en voiture à 4 chevaux et l'hiver en traîneau. J'avais remarqué qu'à Pétersbourg, la haute société ne formait, pour ainsi dire, qu'une famille, tous les nobles étant cousins les uns des autres. À Moscou, où la population est beaucoup plus considérable, la noblesse beaucoup plus nombreuse, la société devient presque un public. Par exemple, il peut tenir 6 000 personnes dans la salle de bal où se réunissent les premières familles. Cette salle est entourée d'une galerie en colonnade, élevée de quelques marches, où peuvent se promener les personnes qui ne dansent pas, et précédée de plusieurs grands salons, dans lesquels on soupe et l'on fait des parties de jeu. Je suis allée à l'un de ces bals et je fus surprise du grand nombre de jolies personnes que j'y trouvais réunies. J'en puis dire autant d'un très beau bal où m'invita la maréchale Soltikov. Les jeunes femmes étaient presque toutes d'une beauté remarquable. Elles avaient imité le costume antique dont j'avais donné l'idée à la grande duchesse Élisabeth pour le bal de l'impératrice Catherine. Elles portaient des tuniques en cachemire bordées de franges d'or. De superbes diamants attachaient leurs manches courtes et retroussées et leurs coiffures à la grecque étaient ornées pour la plupart de bandelettes couvertes de brillants. Rien ne pouvait être aussi élégant et aussi riche que ces costumes. Ils embellissaient encore cette foule de jolies femmes, plus charmantes les unes que les autres. Une de celles que je remarquais principalement était une jeune personne que le prince Tufakin épousa peu de temps après. Son visage, dont les traits étaient fins et réguliers, avait une expression extrêmement mélancolique. Lorsqu'elle fut mariée, je commençai son portrait. Mais je ne pus finir à Moscou que la tête, en sorte que j'emportai le tableau pour le terminer à Pétersbourg, où je ne tardai pas à apprendre la mort de cette jolie personne. Elle avait à peine 17 ans. Je l'ai peinte en iris, entourée d'une écharpe ondoyante et assise sur des nuages. Ce portrait est chez le prince Tufakin, son mari, qu'il a apporté avec lui lorsqu'il vint en France. La maréchale Soltikov tenait une des meilleures maisons de Moscou. J'avais été lui faire une visite à mon arrivée. Elle et son mari, qui étaient alors gouverneurs de cette ville, me reçurent avec infiniment de bonté. Elle me demanda de faire le portrait du maréchal et le portrait de sa fille, qui avait épousé le comte Grégoire Orlov, fils du comte Vladimir. Je faisais aussi celui de la fille de la comtesse Strogonov, de façon qu'au bout de 10 ou 12 jours, j'avais commencé 6 portraits, sans compter celui de la bonne et charmante Madame Ducray de Villeneuve, que je retrouvais à Moscou avec bien de la joie, et qui était si jolie que je voulais la peindre. Un accident qui pensa me coûter la vie vint me priver de mon atelier et retarder la terminaison de tous ces ouvrages. Je jouissais d'une tranquillité parfaite dans la maison que m'avait prêtée la comtesse Strogonov. Mais comme cette maison n'avait pas été habitée depuis 7 ans, il y faisait un froid cruel. J'y remédiais autant qu'il était possible en faisant chauffer à l'excès tous les poêles. Cette précaution n'empêchait point que la nuit je ne fusse forcée de laisser du feu dans ma chambre à coucher, et j'étais tellement gelée dans mon lit, les rideaux hermétiquement fermés, sans parler d'une petite lampe allumée près de moi pour adoucir l'air, que je m'entourais totalement la tête dans mon oreiller, que j'attachais avec un ruban, au risque d'être étouffée. Une nuit que j'étais parvenue à dormir, je fus réveillée par une fumée qui m'asphyxiait. Je n'ai que le temps de sonner ma femme de chambre, qui me soutient que c'est une idée et qu'elle a éteint le feu partout. « Ouvrez la porte de la galerie, lui dis-je. » À peine m'a-t-elle obéi que sa chandelle est éteinte et ma chambre, tout l'appartement, rempli d'une fumée épaisse et puante. Nous n'eûmes rien de plus pressé que de casser toutes les vitres, mais ignorant d'où venait cette épouvantable fumée, on peut juger de mon inquiétude. Enfin, je fis venir un des hommes qui chauffait les poêles et il m'apprit que son camarade avait oublié d'ouvrir le couvercle qui ferme les tuyaux et qui est, je crois, placé sur les toits. Délivré de la crainte d'avoir mis le feu à la maison de la comtesse Strogonov, je visitai mon appartement, toute transie que j'étais. Près du salon où je donnais mes séances était un grand poêle avec 2 bouches de chaleur, devant lequel j'avais posé le portrait du maréchal Soltikov pour le faire sécher. Je trouvai ce portrait à moitié grillé et calciné, au point que j'étais obligé de le recommencer. Mais ce qui causa mon plus grand tourment dans cette nuit de tribulation, fut l'impossibilité où j'étais de faire enlever à l'instant une collection de tableaux de plusieurs grands maîtres que mon mari m'avait envoyés et que j'avais exposés dans une salle voisine de ma chambre, car il était facile de prévoir que ces tableaux, qui ne m'appartenaient pas, souffriraient beaucoup. Il était 5 heures du matin. La fumée se dissipait à peine et depuis que nous avions cassé les vitres, la place n'était plus tenable. Cependant, que faire? Où aller? Je me décidai à envoyer chez l'excellente Madame Ducray de Villeneuve. Elle accourut aussitôt et m'emmena chez elle, où je restai 15 jours, pendant lesquels cette charmante femme me prodigua des soins dont je ne perdrai jamais le souvenir. Lorsque je songeai à retourner chez moi, j'allai d'abord avec Monsieur Ducray reconnaître les lieux. Quoique les vitres n'eussent point été remises, toute la maison conservait encore une si forte odeur de feu et de fumée, qu'il était impossible de penser à l'habiter si tôt. J'en étais extrêmement contrarié lorsque le comte Orlov, le comte Grégoire Orlov, gendre de la maréchale Soltikov, était un très aimable jeune homme. Je l'ai revu depuis avec bien du plaisir lorsqu'il est venu à Paris pour consulter sur la maladie de sa femme. Avec cette obligeance, qui vraiment est naturelle aux Russes, vint m'offrir de me prêter une maison à lui qui se trouvait libre. J'acceptai l'offre et j'allai m'établir dans ce nouveau logis où, par parenthèse, il pleuvait tellement que la maréchale Soltikov, qui vint m'y voir, désirant rester quelques instants dans la salle où mes tableaux étaient exposés, me demanda un parapluie. Malgré ce désagrément d'un nouveau genre, je suis restée dans cette maison jusqu'à mon départ. Les seigneurs russes déploient tout autant de luxe à Moscou qu'à Pétersbourg. Cette ville immense renferme une multitude de palais magnifiques, meublés avec la plus grande recherche. Un des plus somptueux était celui du prince Alexandre Kourakine, ce prince Alexandre qui est resté longtemps à Paris comme ambassadeur russe près de Napoléon, était beau-frère de la bonne et aimable princesse Kourakine, à qui sont adressées les premières lettres de mes souvenirs, que j'avais connu à Pétersbourg, où j'avais fait deux fois son portrait. Lorsqu'il apprit que j'étais à Moscou, il vint me voir et voulut me donner à dîner avec mes amis, la comtesse Ducrèce de Villeneuve et son mari. Nous arrivâmes dans un vaste palais, orné à l'extérieur avec une magnificence royale. Tous les salons qu'il nous fallut traverser avant d'arriver au dernier étaient meublés plus richement les uns que les autres, et dans la plupart, on remarquait, soit en pied, soit en buste, le portrait du maître de la maison. Avant de nous conduire à table, le prince Kourakine nous fit voir sa chambre à coucher, qui surpassait tout le reste en élégance. Le lit, élevé sur des gradins recouverts de superbes tapis, était entouré de colonnes richement drapées. Deux statues et deux vases de fleurs étaient placés aux quatre coins de l'estrade, et des meubles d'un goût exquis, de magnifiques divans, rendaient cette chambre digne d'être habitée par Vénus. Pour passer dans la salle à manger, nous traversâmes de larges corridors où, de chaque côté, une quantité d'esclaves en grande livrée étaient rangés, des flambeaux à la main, ce qui me fit l'effet d'une cérémonie solennelle. Et, tant que nous fûmes à table, des musiciens invisibles, qu'on avait placés au-dessus de nos têtes, nous récréèrent par cette délicieuse musique de corps dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. La grande fortune du prince Kourakine lui permettait de tenir chez lui l'état d'un souverain. J'ai même entendu dire qu'il avait un sérail dans son palais et qu'il n'était pas le seul à Moscou qui déployât ce luxe oriental. Quoi qu'il en soit, le prince Alexandre Kourakine était un excellent homme, d'une politesse obligeante avec ses égaux et sans aucune morgue avec ses inférieurs. Je dînai aussi chez un prince Galitzine. Je ne saurais dire combien il y avait à Moscou, à l'époque où je m'y trouvais, de princes et surtout de princesses Galitzine. Plusieurs de ces dernières n'étaient point mariées. Chez un prince Galitzine, que ses manières affables et polies faisaient généralement rechercher. Quoiqu'il fût trop âgé pour se mettre à table avec ses convives, qui étaient au nombre de 40 personnes, le dîner, exquis et extrêmement abondant, n'en dura pas moins plus de 3 heures, ce qui me fatigua cruellement, d'autant plus que j'étais placée en face d'énormes fenêtres dont le jour m'aveuglait. Ce festin me parut insupportable. En compensation, j'avais eu le plaisir, avant de me mettre à table, de parcourir une très belle galerie qui contenait de bons tableaux de grands maîtres, mélangés, il est vrai, de tableaux assez médiocres. Le prince Galitzine, que l'âge et la souffrance retenaient dans son fauteuil, avait chargé son neveu de m'en faire les honneurs. Ce jeune homme, qui ne se connaissait pas en peinture, se bornait à m'expliquer de son mieux les sujets, et j'eus peine à m'empêcher de rire, quand, devant un tableau qui représentait Psyché, ne pouvant prononcer ce nom, il me dit « Celui-ci est fiché !» Ce long repas chez le prince Galitzine m'en rappelle un autre qui, je crois, n'a jamais fini. Je m'étais engagé à dîner chez un banquier de Moscou, gros, gras et immensément riche. Nous étions 18 personnes à table. Mais de ma vie, je n'ai vu une réunion de figures aussi laides et surtout aussi insignifiantes, de véritables figures d'hommes à argent. Quand je les eus tous regardés une fois, je n'osais plus lever les yeux dans la crainte de rencontrer encore un de ces visages. Aucune conversation ne s'établissait. On aurait pu les prendre pour des mannequins s'ils n'avaient mangé comme des ogres. 4 heures se passèrent ainsi. Mon ennui était parvenu à un point que je me sentais prête à me trouver mal. Enfin, je pris mon parti et, prétextant une indisposition, je les laissai à table, où peut-être ils sont encore. Ce jour était un jour malencontreux, car il m'arriva le soir même un accident assez risible, quoiqu'il ne m'amusât point du tout. Je ne sais pour quel motif, je me trouvais obligée de faire visite à une Anglaise. Une femme de ma connaissance m'y conduisit et m'y laissa pour quelque temps, après avoir promis de venir me reprendre. Le malheur voulait que cette Anglaise n'entendît pas un mot de français et moi pas un mot d'anglais, en sorte que l'on peut juger de son embarras et du mien. Je la vois encore devant une petite table entre deux bougies qui éclairaient son visage pâle comme la mort. Elle croyait devoir, par politesse, continuer à me parler dans sa langue que je ne pouvais comprendre, et réciproquement, je lui adressais quelques mots français qu'elle ne comprenait pas davantage. Nous restâmes ainsi plus d'une heure ensemble, laquelle heure me parut un siècle, et je crois que cette pauvre Anglaise ne la trouva pas moins longue. À l'époque où je me trouvais à Moscou, le plus riche habitant de cette ville, et peut-être de toute la Russie, était le prince Bezborodko. Il pouvait, dit-on, lever sur ses terres une armée de 30 000 hommes, tant il possédait de paysans qui sont tous, comme on ne l'ignore pas, attachés en Russie au territoire. Ses diverses habitations renfermaient un grand nombre d'esclaves qu'il traitait avec la plus grande bonté et auxquels il avait fait apprendre des métiers de différents genres. Lorsque j'allais le voir, il me montra des salons encombrés de meubles achetés à Paris qui sortaient des ateliers du célèbre ébéniste Daguerre. La plupart de ces meubles avaient été imités par ses esclaves et il était impossible de distinguer la copie placée près de l'original. Cela me conduit à dire que le peuple russe est d'une intelligence extraordinaire. Il comprend tout et semble doué du talent d'exécution. Aussi le prince de ligne écrivait-il « Je vois des Russes à qui l'on dit « Soyez matelots, chasseurs, musiciens, ingénieurs, peintres, comédiens » et qui deviennent tout cela selon la volonté de leur maître. J'en vois qui chantent et dansent dans la tranchée, plongés dans la neige et dans la boue, au milieu des coups de fusil, des coups de canon. Et tous sont adroits, attentifs, obéissants et respectueux. Le prince Bezborodko était un homme d'une haute capacité. Il a été employé sous les règnes de Catherine et de Paul, d'abord comme secrétaire du cabinet, puis, en 1780, comme secrétaire d'État au département des affaires extérieures. Dans le désir d'éviter les sollicitations sans nombre qu'on lui adressait, il s'était rendu peu abordable. Les femmes le poursuivaient quelquefois jusque dans sa voiture. Il répondait alors à leurs demandes « Je l'oublierai ». Et s'il s'agissait d'une pétition « Je la perdrai ». Son plus grand talent était une connaissance savante et approfondie de la langue russe. Il possédait en outre une mémoire prodigieuse et une facilité de rédaction surprenante. Un trait de lui bien connu en donne la preuve. Il reçut un jour de l'impératrice Catherine l'ordre de rédiger un procès d'oukase que ses nombreuses affaires lui firent oublier. La première fois qu'il retourna chez l'impératrice, celle-ci, après avoir conféré avec lui sur plusieurs points d'administration, lui demanda son oukase. Bezborodko ne se déconcerte pas le moins du monde. Il tire un papier du portefeuille et improvise d'un bout à l'autre, sans hésiter une seconde, tout le projet de loi. Catherine fut tellement satisfaite de cette rédaction qu'elle prit le papier pour y jeter les yeux. On juge de sa surprise à la vue d'un papier tout blanc. Bezborodko allait se confondre en excuses. Elle lui imposa silence par des compliments et le nomma le lendemain son conseiller privé. Un autre russe, dont la mémoire était aussi surprenante que celle du prince Bezborodko, était le comte Boutourline, que j'ai beaucoup vu à Moscou, où, par parenthèse, nous étions logés si loin l'un de l'autre que pour aller souper chez madame la comtesse Boutourline, je faisais 2 lieues dans la soirée. Le comte Boutourline, par son savoir et ses connaissances, était un des hommes les plus distingués que j'ai connus. Il parle toutes les langues avec une facilité prodigieuse, et son instruction en tout genre prête un charme infini à sa conversation. Mais sa supériorité sur les autres ne l'empêchait pas d'être extrêmement simple et de recevoir ses amis avec autant de bonhomie que de grâce. Il possédait à Moscou une bibliothèque immense, composée des livres les plus rares et les plus précieux dans les différentes langues. Sa mémoire était telle que lorsqu'il rapportait un trait historique ou une anecdote quelconque, il pouvait dire à l'instant dans quelle salle et sur quel rayon de sa bibliothèque se trouvait le livre qu'il venait de citer. J'en étais étonné au dernier point, et cependant, une chose pour le moins aussi surprenante était de l'entendre parler de toutes les villes de l'Europe et de ce qu'elles renferment de remarquable, comme s'il les eût habitées longtemps, tandis qu'il n'avait jamais quitté la Russie. Pour mon compte, je sais bien qu'il me parlait de Paris, de ses monuments, de tout ce qu'on y trouve de curieux, avec de si grands détails que je m'écriais « Il est impossible que vous n'ayez pas été à Paris !» Les demandes de portraits qui m'étaient faites, la société agréable que je m'étais formée à Moscou, auraient dû me retenir plus longtemps dans cette ville où je n'ai passé que 5 mois, dont 6 semaines dans ma chambre. Mais j'étais triste, souffrante, je sentais le besoin de repos et surtout de respirer un air plus doux. J'avais donc pris la résolution de retourner à Pétersbourg pour voir ma fille, après quoi je devais quitter la Russie. J'en fus empêché pendant quelques jours par un redoublement de mes indispositions habituelles et je retrouve une lettre que j'écrivais alors à mon gendre qui peut donner une idée de mon état d'esprit à cette triste époque de ma vie. « Je vous remercie, mon cher ami, de votre grande lettre. Jamais je ne me plaindrai lorsque vous converserez longtemps avec moi. Tout ce qui vous intéresse m'intéresse aussi. Le lien qui nous unit est trop près de mon cœur pour que rien de ce qui vous touche me soit étranger et sans égoïsme, je ne saurais y rester indifférente. Ceux qui ne m'ont point rendu justice vous ont beaucoup trop éloigné de moi, car je veux croire qu'il n'y a pas de votre faute ni de celle de ma fille. On l'avait bien trompé. J'en ai cruellement souffert et malgré le temps et mes efforts, la plaie est encore si vive que, livrée à moi-même, mes idées sur le bonheur que peut espérer une mère qui n'a jamais rien eu à se reprocher m'affligent plus qu'elles ne me consolent. Les circonstances m'obligent depuis longtemps à un travail assidu et pénible. Il s'ensuit que ma santé commence à m'effrayer, non pour ma vie, je n'ai nul désir de la voir se prolonger et je n'ai point varié sur ce que je vous ai dit souvent à cet égard, mais j'éprouve une faiblesse qui me dissout. Je deviens si triste que le plus grand misanthrope me paraîtrait trop gai. Le monde me fatigue, la solitude me tue et je ne vois aucune position qui puisse me convenir. Je n'ai d'espérance que dans le repos, le soleil, un beau climat et je compte avant peu les aller chercher. Si je devenais plus souffrante, je vous le ferais savoir, afin que vous vinssiez me prendre ici, car pour rien au monde, je ne voudrais mourir à Moscou. Peu de jours après, me trouvant beaucoup mieux, j'annonçai mon départ et je fis mes adieux. Tout fut mis en œuvre pour me retenir. On m'offrait de me payer mes portraits plus chers qu'à Pétersbourg, de me laisser tout le temps de les terminer sans fatigue pour moi. Je me souviens que la veille encore du jour où je partis, comme je me trouvais au rez-de-chaussée de la maison, occupé de mes paquets, je vis entrer, sans qu'on l'eût annoncé, un homme d'une grandeur prodigieuse, vêtu d'un manteau blanc, qui me fit une frayeur horrible. On voyait sans cesse passer à Moscou des personnes que Paul envoyait en Sibérie, et quoiqu'il n'eût encore exilé que 2 Français, tous 2 auteurs d'infâmes libelles contre la Russie, je n'hésitais pas à prendre cet inconnu pour un émissaire de Paul. Je ne respirais que lorsque je l'entendis me supplier de ne point quitter Moscou et me demander un grand tableau de toute sa famille. Sur mon refus, que je rendis le plus obligeant qu'il me fut possible, le bon monsieur me pria instamment de vouloir bien au moins donner mon portrait à la ville. J'avoue que cette dernière demande me toucha au point que j'ai toujours regretté que mes occupations et ma santé m'aient empêché depuis d'y satisfaire. Plusieurs personnes, que je ne doute pas avoir été dès lors dans la confidence de la révolution qui se préparait, me pressèrent beaucoup de retarder mon départ de quelques jours, m'assurant qu'elle partirait pour Pétersbourg avec moi. Mais dans l'ignorance totale où j'étais du complot, je m'obstinais à me mettre en route, en quoi j'eus grand tort. Car, en attendant un peu, j'aurais évité les fatigues qu'il me fallut éprouver sur ces abominables chemins que le dégel rendait de nouveau impraticables.